Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour un autre épisode d'une série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses récits insolites. Connaissez-vous les Maccabées? Bien, peut-être que vous avez déjà entendu le mot sans nécessairement connaître la réalité que ça décrit. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller aux racines de la foi en la résurrection. La majorité de l'Ancien Testament ne parle pas de résurrection. Pourquoi? Bien, parce que c'est un concept qui est assez tardif, qui va apparaître peut-être autour de 200 ans avant Jésus-Christ, et c'est lors d'une crise qu'on va appeler la crise des Maccabées. On va aller découvrir un texte qui illustre des tortures physiques subies par des martyrs juifs de cette époque-là. Vous allez voir, c'est le cœur sensible s'abstenir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment ça se fait qu'ils ont commencé à croire à une vie au-delà de la mort. C'est donc le menu pour notre émission. Comme d'habitude, j'ai sélectionné un message reçu d'un auditeur. Il y a quelques semaines, peut-être que vous vous en rappelez, on parlait du thème de la souffrance. Et je vous avais demandé à l'époque de m'écrire à ce sujet-là, voir comment vous comprenez la souffrance, et surtout d'un point de vue chrétien. Et voici un extrait d'un courriel que j'ai reçu de Dr. Lamirande. « Bonjour, Monsieur Daune. Je suis bien contente que vous soyez à la radio. J'apprécie beaucoup vos commentaires. » Je suis comme toutes les autres bien dépourvu devant la souffrance, surtout quand elle semble venir sans raison. Mais je ne pense vraiment pas que ce soit un châtiment divin. Dieu ne peut pas être moche comme ça, ça serait un non-sens. Les gens du tiers-monde et ceux qui souffrent de la guerre, des catastrophes naturelles, etc., ne sont définitivement pas plus coupables d'offenses envers Dieu que nous, les chanceux de vivre dans un pays où les choses ne vont pas trop mal. Je me suis souvent senti rebelle devant cette création qui est bien belle, mais tout de même très imparfaite avec tant de souffrances. Il n'y a pas que nous, les humains, qui sont loin de la perfection. Il y a la nature qui nous tombe dessus régulièrement avec des tornades, des tsunamis, des tremblements de terre et le reste. Alors que dire de cette création si imparfaite de Dieu et ses souffrances que ça implique? Est-ce qu'il a pu faire tant d'erreurs? Je me suis retrouvé fâché qu'il n'y ait pas fait son travail mieux que ça. Puis je me suis dit que cette création n'était pas encore finie. Que nous en étions au sixième jour. Dieu a remis en nos mains de faire avancer cette création, mais nous en sommes encore au sixième jour et il dure, et ça implique la souffrance, il y a pour tous et souvent. L'enfantement se fait toujours, il y aura pour longtemps. J'ai été bien surpris plus tard car j'ai lu des textes de Teilhard de Chardin qui disait qu'on aurait tort de croire que la création est achevée, qu'elle est en voie de se faire et que notre rôle était majeur et devait la pousser en avant. Alors ce sixième jour de la création dure et dure, mais Dieu a une échelle de temps bien différente de la nôtre. Un ami m'a lu le dernier chapitre d'un livre sur l'évolution d'un philosophe. Son opinion est que le prochain stade de l'évolution humaine est l'altruisme, la seule façon de s'en sortir et de survivre. Ça se fait bien lentement, mais l'Homo sapiens a eu besoin de quelques dizaines de milliers d'années pour s'implanter et arriver où on en est, alors on ne peut pas s'attendre que l'altruisme arrive du jour au lendemain. Patience et longueur de temps. Alors quand j'écoute les nouvelles, qu'elles sont terribles et ne montrent que la souffrance extrême, je me cite encore Teilhard de Chardin. « Pour éviter que je ne succombe à la tentation de maudire l'univers et celui qui l'a créé, faites que je l'adore en vous voyant caché en lui. Cette parole libératrice, qui à la fois révèle et opère, redites-la moi, Seigneur, ceci est mon corps. » C'est la meilleure antidote à la grosse déprime et à la grosse souffrance dans ma vie quand elle me tombe dessus. Et c'est signé Docteur de Lamirande. Alors, merci beaucoup pour ce commentaire. Vous avez tout à fait raison d'amener Teilhard de Chardin dans la discussion, un théologien qui est à revisiter le plus souvent possible. Pour ma part, je viens justement de revenir ce matin même d'un séjour au Guatemala. Je suis d'ailleurs un petit peu fatigué, hein. Peut-être que ça s'entend dans ma voix. Là-bas, j'ai pu vivre toutes sortes d'expériences avec des personnes qui savent c'est quoi avoir faim, qui ont subi des catastrophes naturelles, des explosions de volcans, des ouragans, etc. Et oui, la souffrance fait partie de la vie et doit nous questionner et ultimement, j'espère comme vous que la réponse est dans l'altruisme. Aidons-nous les uns les autres, C'est une parole qui est à retenir et à mettre en action. Lors de mon séjour au Guatemala, j'étais avec des élèves de 15 à 17 ans qui ont découvert c'était quoi la joie de l'entraide et du don de soi. Ils allaient là avec l'intuition qu'ils allaient découvrir quelque chose et c'est ultimement ce qu'ils ont découvert, la joie d'aider son prochain. Quand chacun fait sa part, moi je crois qu'on construit ensemble le royaume de Dieu ici même. Merci beaucoup à Dr. Lamirande pour ce commentaire. Si comme elle, vous avez des questions, des commentaires, écrivez-nous, c'est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. Après un peu de musique de Vivaldi, je vous raconte l'histoire des Maccabées, on va comprendre un peu mieux la résurrection. Nos conceptions de la mort sont beaucoup plus récentes que l'on croit. Vous ne trouverez pas notre façon de parler de l'enfer, du paradis, partout dans l'Ancien Testament. Au contraire, c'est la même chose pour la résurrection. La résurrection, c'est une croyance qui est relativement récente. C'est ça qu'on disait en début d'émission. Elle apparaît autour de 200 ans avant Jésus-Christ. Pendant un bon moment dans l'histoire des Hébreux, au temps de Moïse, de David, des prophètes, on n'avait pas vraiment développé ce qui allait arriver après la mort. La mort, ben, c'était la fin de la vie. Au-delà de la mort, il n'y avait rien ou presque. Les morts étaient dans ce qu'on appelait le Sheol. Au sens premier, le Sheol, le mot hébreu, ça indique une tombe, un trou profond dans la terre où on plaçait les cadavres. Bien entendu, il y règne une obscurité profonde. Puisque pour les Hébreux, c'était impensable de séparer l'âme et le corps, ce qui va être possible avec les Grecs, ben à la mort, la personne était donc physiquement au Sheol dans sa tombe. Il faut se rappeler que pour l'homme de la Bible, l'humain était un et indissociable. Bon, le Sheol, est-ce que c'est un lieu? Oui, mais avec le temps, ça a fini par désigner une sorte de séjour des morts en général, sans être seulement qu'une tombe en particulier. Ce lieu-là, bon, va être caractérisé par le noir, le silence, la poussière, la profondeur, l'absence, l'oubli. C'est un lieu de semi-existence, où la communication est impossible, en particulier la communication avec Dieu. Après la mort, Dieu n'est pas là. Dieu y est absent du Sheol. En fait, le Sheol, au plus profond de la terre, est à l'extrême opposé du ciel, là où on retrouve le Dieu vivant. Le séjour des morts, c'est un lieu d'où on ne peut pas sortir, pour l'Ancien Testament, en tout cas pour une bonne partie de l'Ancien Testament. C'est là où on est en rupture avec le monde des vivants. L'Ancien Testament regarde donc la mort face à face et ose en parler sans l'édulcorer. Alors, l'humain est marqué par sa propre finitude et on le voit très clairement dans les textes de l'Ancien Testament. C'était sur Terre que Dieu punissait ou récompensait par la prospérité et la descendance. Alors, il faisait de toutes sortes de façons. Hein? Troupeaux, terres, maisons, serviteurs, femmes, concubines, c'était la belle vie, quoi. Puis au contraire, si on vivait en désobéissance au commandement de Dieu, ben, on était puni aussi sur Terre. Maladie, pauvreté, stérilité, aucune descendance et ultimement la mort. Même sans vie après la mort, ben, Dieu restait fidèle à son alliance puisque c'est sur terre qu'il s'occupait des justes. On appelle ça la théologie de la rétribution. La théologie de la rétribution va tomber en pièces justement avec les persécutions qui sont subies par les Juifs au 2e siècle avant Jésus-Christ, racontées dans l'Ancien Testament par le livre des Maccabées. Et nous allons nous y intéresser. On va aller regarder cette histoire-là. Ce livre-là va proposer l'idée de la résurrection comme solution à la question de la mort des martyrs fidèles dans la foi. Des justes mouraient alors qu'il restait fidèle à Dieu. C'était comme un non-sens pour ceux qui croyaient encore à la théologie de la rétribution. C'est donc là qu'ils ont commencé à essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir après la mort, et ils vont commencer à parler de résurrection. Alors, je vais d'ailleurs vous lire un des premiers récits qui illustre cette croyance à la résurrection. On va voir que c'est quand même assez spécial. On y parle de souffrance, on voit de la torture. Ça se retrouve au 2e livre des Maccabées, au chapitre 7, et justement, on va voir 7 frères qui sont arrêtés avec leur mère. Vous allez voir, c'est pas facile d'être martyr, cœur sensible, s'abstenir, on lit ça ensemble. Il arriva aussi que 7 frères furent arrêtés avec leur mère et que le roi voulut les contraindre en leur infligeant des fouets, les nerfs et le bœuf à toucher à la viande de porc interdite par la loi. L'un d'eux, se faisant le porte-parole, dit « Que vas-tu demander et apprendre de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le roi, devenu furieux, fit mettre sur le feu des poêles et des chaudrons. Dès qu'ils furent brûlants, il ordonna de couper la langue de celui qui avait été leur porte-parole, de lui enlever la peau de la tête et de lui la trancher les extrémités sous les yeux de ses frères et de sa mère. Lorsqu'il fut complètement mutilé, il commanda de l'approcher du brasier, respirant encore, et de le faire passer à la poêle. Tandis que la vapeur se répandait autour de la poêle, les autres avec leur mère s'exhortaient mutuellement à mourir courageusement. Ils disaient « Le Seigneur Dieu voit, et en vérité, il a compassion de nous », comme Moïse l'a annoncé par le cantique qui proteste ouvertement en ces termes, « Et il aura pitié de ses serviteurs ». Quand le premier eut ainsi quitté la vie, on amena le second au supplice. Après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux, on lui demandait « Mangeras-tu du porc plutôt que de subir la torture de ton corps membre par membre ?» Mais il répondit dans la langue de ses pères « Non ». C'est pourquoi lui aussi subit les tortures l'une après l'autre. Au moment de rendre le dernier soupir, il dit « Scélérat que tu es, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après lui, on supplicia le troisième. Il présenta aussitôt sa langue comme on lui ordonna et tendit ses mains avec intrépidité. Il fit cette déclaration courageuse. « C'est du ciel que je tiens ses membres, à cause de ses lois, je les méprise, et c'est de lui que j'espère les retrouver. » Le roi lui-même et son entourage furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait les souffrances pour rien. Ce dernier, une fois mort, on soumit le quatrième aux mêmes tortures cruelles. Sur le point d'expirer, il dit « Mieux vaut mourir de la main des hommes en attendant, selon les promesses faites par Dieu, d'être ressuscité par lui, car pour toi, il n'y aura pas de résurrection à la vie. » On amena ensuite le cinquième et on le tortura. Fixant les yeux sur le roi, il dit « Tu es puissant parmi les hommes, bien qu'étant corruptible. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne crois pas que notre race soit abandonnée de Dieu. Pour toi, prends patience et tu verras sa grande puissance, comme il te tourmentera, toi et ta descendance. » Après celui-ci, ils amenèrent le sixième. Sur le point de mourir, il dit « Ne te fais pas de vaines illusions, car c'est à cause de nous-mêmes que nous endurions ces souffrances, ayant péché envers notre Dieu, aussi nous est-il arrivé d'étranges calamités. Mais toi, ne t'imagine pas que tu resteras impuni, toi qui as entrepris de faire la guerre à Dieu. » Éminemment admirable et digne d'une excellente renommée fut la mère, qui voyait mourir ses 7 fils en l'espace d'un seul jour et le supportait avec sérénité, parce qu'elle mettait son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Remplie de nobles sentiments et animée d'un mâle courage, cette femme leur disait « Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles, ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit de la vie, et ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. Aussi bien le Créateur du monde, qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toute chose, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous sacrifiez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. » C'est un extrait du deuxième livre des Maccabées, chapitre 7, les versets 1 à 23. C'est assez monstrueux, tout ça, toutes ces tortures. Je me rappelle avoir lu ces textes-là à mes élèves au secondaire, et une qui m'a dit, justement, c'était le texte qui me hantait, je l'avais entendu une fois à l'église, et je me demandais qu'est-ce qui était derrière tout ça. On voit que tout ça vient d'un fait, ils refusent de manger du porc. Pourquoi? Ben, c'est un aliment qui est proscrit par la loi juive, et le roi, dont il est question, essaye de justement briser toutes ces coutumes juives-là pour que les sujets de ce pays-là prennent les coutumes grecques. Et les Juifs refusent de se faire assimiler. Ils ne veulent pas entrer dans cette culture grecque et se font donc torturer et tuer. Le dernier fils et la mère finissent par mourir aussi dans la suite du récit. Alors, bon, tout le monde meurt dans tout ça. Mais ça finit pas là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les affirmations au sujet de la résurrection. Parce que les affirmations des frères de la mère sont très importantes. Avant de mourir, ils vont dire courageusement au roi, ils vont même insulter le roi, et ils vont lui dire que même si lui, le roi, qui semble si puissant, les tue, ben Dieu, lui, va les ressusciter, et ce, pour une vie éternelle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette idée de la résurrection apparaissait nulle part avant ça dans l'Ancien Testament. C'est comme une première fois où on voit ce concept-là, à cette époque, surgir dans un texte. Alors, c'est très important, ça. Le sixième fils va amener une interprétation un peu différente de tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lui, au lieu de parler de résurrection, il va dire que la torture et la mort sont liées au péché du peuple et non seulement à la cruauté du roi. Bon, dans cette même lignée, le septième fils va aussi dire que le Seigneur se courrouce contre eux pour leur éducation, pour qu'ils se réconcilient à nouveau avec ses serviteurs. Ça, c'est une interprétation classique qu'on retrouve souvent dans la Bible, à peu près chaque fois qu'il y a un malheur, surtout lorsqu'il y a l'exil à Babylone, ben, les prophètes vont dire « bon, ben, c'est parce qu'on a fait des péchés et Dieu essaye de nous ramener dans le droit chemin ». Alors, il y a aussi de ça dans ce texte-là. Puis enfin, le discours de la mère qui finit tout ça est très important parce qu'il décrit le mystère de la conception, de l'enfantement. Ses propres enfants, il semble avoir Dieu là-dedans. Alors, c'est même Dieu est créateur, pas seulement de la vie au début, lorsqu'il crée le monde, mais aussi à chaque fois que quelqu'un est engendré, Dieu crée quelque chose à travers lui. Donc, avec ce récit-là, on voit que les martyrs Maccabées sont fidèles à Dieu jusque dans la mort, malgré la torture. Et normalement, la fidélité de Dieu, à l'époque, on croyait que c'était repayé sur terre par des richesses, la santé, les enfants, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais parce qu'ils meurent, ben, c'est impossible, Dieu ne peut pas leur repayer leur fidélité. C'est donc là qu'on a commencé à comprendre qu'il devait avoir quelque chose après la mort, puis qu'on a amené ce concept de la résurrection. On va poursuivre notre réflexion, essayer de voir justement comment les chrétiens vont comprendre ce concept de résurrection et comment nous-mêmes aujourd'hui on peut faire ça, après encore quelques mesures de Vivaldi. Vous êtes dans l'émission « Les récits insolites de la Bible » avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, nous avons lu le récit du martyr des Maccabées, puisque c'est un des premiers témoignages de la foi en la résurrection chez les Juifs. On disait que c'était environ 150-200 ans avant Jésus-Christ. Ce concept juif de la résurrection-là, bon, provient de cette époque, mais il finit par devenir quelque chose de central chez les chrétiens. Les chrétiens parlent beaucoup de résurrection. Hein. C'est l'élément principal de la foi chrétienne qui se retrouve dans la résurrection de Jésus. Pourtant, la grande majorité des chrétiens ne semblent pas connaître d'où vient cette idée-là, d'où vient le concept de la résurrection. Alors, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec le texte des Maccabées. On va regarder comment ça se fait que les disciples vont prendre ce concept de la résurrection que les Maccabées avaient élaboré pour l'appliquer à Jésus. Bien, c'est parce que lorsque les disciples de Jésus vont s'apercevoir que celui qui avait été crucifié est de nouveau vivant, mais d'une autre façon, d'une vie autre que ce qu'on connaît, bien, ils vont se tourner naturellement vers le concept de la résurrection dont on parlait à cette époque-là pour témoigner de leur expérience. À quelque part, Jésus a vécu le même sort que les Maccabées. Il a été torturé, exécuté par le pouvoir politique de son époque. Les Maccabées avaient espoir que le Seigneur les relève de la mort. Bien, c'est ce que les disciples affirment qui est arrivé avec Jésus aussi. Il est relevé de la mort. Pourtant, il y a quand même une grande différence entre les deux. La résurrection évoquée par les Maccabées puis celle de Jésus. À l'époque de Jésus, on croyait à la résurrection, mais ce n'était pas une résurrection d'une personne. À la lumière de l'événement des Maccabées, on croyait que ça allait être une résurrection collective, que tout le monde allait ressusciter ensemble à la fin des temps. La résurrection d'un seul homme n'était pas vraiment ce à quoi les Juifs s'attendaient à ce moment-là. Même, il y avait aussi la différence entre le concept du Messie et de la résurrection, ce n'était pas nécessairement lié ensemble. Bien, pour pallier à cette différence-là, les disciples vont dire que Jésus, c'est le premier ressuscité, mais nous aussi, on va ressusciter en lui. À quelque part, la dimension collective de la résurrection va avoir lieu. Elle commence avec Jésus et elle va se poursuivre par la suite. Si on dit croire à la résurrection, à quoi est-ce qu'on croit vraiment? Comment on peut déballer ce mot-là de résurrection? Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va avoir lieu? Bien, malheureusement, la Bible est assez avare de détails. On en dit très peu de choses sur tout ça. Par contre, si le sujet vous intéresse, moi, je vous suggère un endroit dans la Bible. C'est la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Il essaie justement de répondre à cette question-là. Ça ressemble à quoi, ça, un ressuscité? Quand est-ce qu'on va ressusciter et tout ça pour sa communauté qui se pose ces questions-là? Je vous laisse aller lire ce texte-là en question. Pour ma part, moi, je vous invite à rester peut-être plus dans un mystère, de rester avec nos questions qui, oui, sont existentielles et importantes, mais ultimement, on ne peut pas percer le mystère des plans de Dieu. On ne le sait pas. Ça a l'air de quoi, la résurrection? On ne sait pas le processus, comment ça va se passer exactement. Par contre, on peut rester dans la confiance. Surtout la confiance, on a lu le texte des Maccabées, même dans le martyr, il restait dans cette confiance, dans cet espoir que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est déjà le moment de se dire à la prochaine fois. J'espère que le récit des martyrs Maccabées vous a donné à réfléchir et nous a aidé à mieux comprendre un peu c'était quoi les fondements de la résurrection. Vous pouvez aller lire les récits, les réflexions abordées dans notre émission dans un livre qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible ». Ça se retrouve aux éditions Novalis et Mediapol. C'est moi-même qui l'ai écrit. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas, écrivez-nous. On prend toujours un temps au début de chaque émission pour vos réactions, pour faire un peu plus interactif comme émission. Par exemple, vous pouvez me dire comment est-ce que vous comprenez la résurrection aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut décrire l'espoir des chrétiens en cette vie après la mort? Je vous rappelle notre adresse, auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on va se tourner vers un prophète en particulier qui s'appelle Osée, un prophète qui est très intéressant. Entre autres, on va regarder des noms prophétiques qu'il donne à ses enfants. Puis bon, pauvre eux, ça ne devait pas être facile dans la cour d'école avec ces noms-là. En terminant, un rapide merci à Alain Primo à la technique et merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre écoute attentive. C'était Sébastien Daune, à bientôt.